la page 11 dans les Bibles de l'Église. Prions d'abord. Merci, en effet, notre Père, nous avoir donné ta parole, les Écritures. Merci d'avoir inspiré ceux qui l'ont écrit au fil des siècles, au fil des millénaires. Merci de t'avoir inspiré par ton esprit, d'avoir soufflé ces mots par ton esprit. Et Père, nous voulons te demander ce matin que ton esprit, le Saint-Esprit, soit notre enseignant ce matin. Les mêmes paroles, qu'il nous instruise, qu'il nous guide, qu'il nous enseigne ce matin pour que nous puissions te connaître tel que tu es, pour que nous puissions te faire davantage confiance, pour que nous puissions suivre ton Fils dans les hauts et les bas de la vie. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Donc Genèse chapitre 15, et on va commencer au verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il y regarda le ciel, « Compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai ?» L'Éternel lui dit, « Prends une jalisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Mais Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage. On les opprimera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qui reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant, « C'est à ta descendance que je donne ce pays. Celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Guergasiens et des Jébusiens. » Donc voici notre texte pour ce matin. Alors, un verset dans l'évangile de Marc qui m'aide beaucoup, c'est la prière d'un père qui dit à Jésus, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Est-ce que cette prière-là sonne juste dans votre vie? Vous croyez bien? Ah, mais vous avez quand même besoin d'aide pour croire. Vous croyez, mais votre foi est quand même balbutiante, faible. Et je suis sûr qu'un bon nombre d'entre nous vivent la foi de cette manière-là. D'autant plus que la foi n'est pas un sprint, mais bien un marathon. Le sprinteur des 100 mètres court pendant 10 secondes, s'il est bon. Et le coureur d'un marathon, il met plusieurs heures pour terminer la course. Il doit bien doser son énergie. Son effort pour durer. Alors même cette métaphore-là a bien ses limites, parce que la vie chrétienne est plus longue, une course plus longue, un terrain inconnu. On ne peut pas prévoir à l'avance ce qui va se passer. On ne connaît pas de quoi le lendemain sera fait. Nous ne savons pas quelles épreuves nous attendent, et on ne connaît pas non plus la longueur de ces épreuves. Peut-être une maladie longue, peut-être le chômage de longue durée, peut-être un handicap, une maladie, des problèmes relationnels, familiaux, des choses qui durent. Alors, au début, le coût de la vie chrétienne peut sembler gérable, mais poursuivre la fidélité au long terme, ça peut être toute une épreuve. Et la fidélité pour certains peut avoir un coût économique, un coût pour la carrière. Soa a mentionné aussi ce matin l'Église persécutée. C'est peut-être aussi la perspective de la solitude, le peu d'opportunités pour se marier avec un croyant. Et après, un peu, après quelques années, ça peut peser. Père, je crois. Père, je veux croire. Je veux rester fidèle. Je veux te faire confiance. Viens au secours de mon manque de foi, mon manque de confiance. Et dans ce passage, nous voyons à quel point Dieu est tendre avec nous, avec tous ceux qui ont besoin d'assurance, qui ont besoin d'être rassurés. On va voir qu'Abraham croit, il ne doute pas, mais comme un commentateur, un pasteur, Ralph Davis, suggère, Abraham cherche de l'assurance. Il a besoin d'être rassuré. Il cherche, sa foi cherche des réponses, de l'intelligence même. Et on va voir comment Dieu y répond. Et il y répond avec quelque chose qui ressemble à un sceau. Voici une image d'un sceau, le sceau de la République française. Et Wikipédia me dit, et je cite, que les premiers sceaux ont été créés par les rois mérovingiens pour authentifier leurs actes et ont ordonné l'exécution. Simple bague à l'origine, voilà, on mettait ça sur les enveloppes, puis porté en pendentif, les sceaux royaux se sont agrandis sous les Capétiens jusqu'à atteindre 12 cm, c'est comme un grand diamètre. Ce sont les dimensions du sceau actuel. Et voici donc le sceau de la République française. Et si on devait recevoir un document, ou même une promesse, avec un tel sceau dessus, ben voilà, on saurait que ce document nous parvient avec toute l'autorité de la République. Ça vient confirmer, ça vient appuyer le message de cette lettre. Et en quelque sorte, on va voir dans ce passage, Genèse 15, comment Dieu signe et scelle ses promesses avec un sceau. Ce sceau, c'est l'alliance. C'est un peu comme ça que la théologie protestante réformée parle des ordonnances ou des sacrements tels que le baptême et la scène. Ce sont des signes et des sceaux, des promesses de Dieu. Et ces signes et ces sceaux, ces sacrements ou ces ordonnances, viennent fortifier notre foi. Ce sont des lettres signées de la part de Dieu. Le baptême et la scène nous parlent de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est un peu comme si Dieu nous dit, voici, je vais vous donner ce que ce signe, ce que ce sceau représente, la vie sauve, la vie éternelle, le pardon. Ces signes et sceaux réconfortent et fortifient notre foi. Ils viennent appuyer les promesses de Dieu. Et c'est ce qu'on va voir dans ce passage. Alors, Genèse 15, se divise succinctement en deux parties, d'une longueur inégale, mais quand même en deux parties. Et dans chaque partie, on voit un certain modèle qui se répète. Dieu parle d'abord. Ensuite, Abraham répond avec une sorte de plainte ou un questionnement, en tout cas. Ensuite, Dieu y répond. Et à la fin, à chaque fois, le narrateur, qui est Moïse, qui a écrit ce livre, qui termine avec un commentaire. Et dans chaque partie, quand Dieu répond, il le fait pour fortifier la foi d'Abraham, pour confirmer ses promesses, pour lui donner des signes et des sceaux. On va voir ça ce matin en deux temps. Donc, d'abord, tu auras une postérité. C'est signé et scellé. Et ensuite, tu auras un chez-toi. C'est signé, c'est scellé. Donc, on va commencer avec cette idée de postérité. Et c'est Dieu qui parle en premier dans ce passage, verset 1. Il dit, « Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. » Parce que Abraham aurait toutes les raisons d'avoir peur. On a vu ça la semaine dernière. Qui nous a montré à partir du passage comment Abraham est sorti de l'obscurité pour se lancer sur la scène internationale en quelque sorte, avec une opération militaire risquée. En plus, face au roi de Sodome, qui d'une manière habile voulait le lier à lui, Abraham n'a pas succombé, il ne s'est pas compromis. Pas simple donc pour Abraham, et Dieu ici le rassure en lui disant qu'il sera lui-même son bouclier. Autrement dit, son défenseur, sa stratégie de défense. En plus, si Abraham a choisi par fidélité de renoncer à tout le butin auquel il avait droit, donc le butin qui venait à la base du roi de Sodome, Dieu qui n'a pas de débiteur va quand même lui donner sa récompense. Au premier abord, la réponse d'Abraham peut peut-être nous surprendre, mais elle est quand même bien logique. Verset 2, qu'est-ce qu'il dit ? « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance. » Oui, à quoi est-ce que ça sert d'avoir des récompenses, des richesses, si on ne peut pas les léguer à nos enfants ? C'est comme si Abraham va amasser des choses pour rien. Ici en France, s'il n'y a pas de suite, s'il n'y a pas de famille, c'est l'État qui risque de tout prendre. Ce qui est terrible, bien sûr. Et Abraham dit, il n'y a pas de suite. Bon, oui, il y a un serviteur. Il y a ce serviteur, Eliezer, peut-être un serviteur acquis à Damas, on ne sait pas. Peut-être, c'est comme un commentateur dit, c'est peut-être un serviteur qui pourrait adopter. Pourtant, comme on a déjà vu au chapitre 12, Dieu a promis à Abraham de faire de lui une grande nation. Déjà promis, chapitre 12, chapitre 13, qu'il va lui donner le territoire de Canaan pour sa descendance. Mais il n'a pas de descendance. Les années passent, il est déjà vieux, il n'y a pas de descendance. Ce n'est pas qu'Abraham doute, mais il questionne. Il le fait avec respect, soumission, il appelle Seigneur éternel. Mais il lui dit, comment est-ce que tu vas accomplir tes promesses? Comment est-ce que tu vas être fidèle à tes promesses? Le temps passe. Et c'est quand même dur de croire, d'être fidèle. Alors il n'y a pas l'ombre d'une reproche dans la réponse de Dieu. Je pense qu'il y a plutôt la bienveillance, la tendresse. Verset 4. Ce n'est pas lui, donc Eliezer de Damas, qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Dieu lui dit, il va y avoir une suite. Le nom d'Abraham ne disparaîtra pas de la terre. La vie va continuer. C'est un peu comme ça, peut-être qu'on voyait les choses à l'époque, la vie continue avec de par les enfants. Il va y avoir un héritier naturel, biologique. Un fils lui sera donné. À lui qui est vieux, et à lui dont l'épouse est vieille. Et comme pour marquer le coup, pour renforcer sa foi, Dieu va au-delà de la promesse et lui donne un signe qui parle à sa foi, qui renforce sa foi. Verset 5, regarde vers le ciel, compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui affirma, telle sera ta descendance. Alors nous, on est citadins, On ne voit pas souvent les étoiles, pas comme avant en tout cas. Il y a la pollution, il y a la pollution de la lumière aussi qui, tout ça obscurcit notre vision des étoiles, mais peut-être vous avez quand même un souvenir de vos vacances quelque part, où la nuit, l'été, vous avez regardé les étoiles, peut-être quand vous étiez jeune, vous avez fait du camping, vous avez dormi peut-être à la belle étoile quelque part. Je me souviens d'avoir fait ça avec Jonathan dans le Vaccor. Il y a des années, n'est-ce pas, Jonathan, ouais. Je ne sais pas si on a regardé les étoiles. Mais en tout cas, on voit toutes les étoiles, la Voie lactée. Et c'est une scène d'une beauté extraordinaire. C'est quelque chose qui nous remet bien à notre place. Et Abraham était un nomade. Il vivait dans des tentes. Donc il devait voir ces étoiles tous les soirs, tous les soirs. Et Dieu lui a donné un signe qu'il allait voir jusqu'à la fin de sa vie. Tous les soirs, quotidiennement. Une quantité énorme d'étoiles qui criaient à sa foi. Bénédiction, fécondité, vie, 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 l'abondance, promesse, non seulement d'une descendance postérité directe, mais un grand peuple. Abraham voit ce signe, et dans un sens, il est sans voix, en fait, on ne sait pas exactement ce qu'il a dit. En tout cas, on a ce que le narrateur conclut au verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel. C'est-à-dire, Abraham crut l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Alors, Abraham n'avait pas cessé de faire confiance à Dieu, mais il entend ses paroles, cette promesse, voit ce signe, et sa foi boostée persiste. Il croit Dieu sur parole. Il a confiance en lui. Et ça, c'est le contraire de ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin, face au serpent. Eux, ils ont douté de la bienveillance de Dieu, de sa fidélité à leur égard, de sa bonté, de la fiabilité de ses paroles. Ils ont fait fi de ses paroles. Mais Abraham entend les paroles de l'Éternel. Il a confiance en lui. Il sait que ce Dieu, contrairement à Adam et Ève, il sait que ce Dieu, les paroles de l'Éternel, sont dignes de confiance, que Dieu est digne de confiance. Et ça, malgré l'absence d'un héritier. Il ne voit pas encore l'accomplissement de cette promesse, mais il sait que Dieu est fidèle, que Dieu est le Dieu qui peut faire l'impossible et qui va faire l'impossible. Il va donner la vie là où il y a la mort. Il va donner la vie là où il y a l'absence de la vie, la stérilité. Il croit. Et cette phrase au verset 6, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce, annoncée avant l'heure. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Et cette justice qu'Abraham reçoit, qui est créditée à son compte, si je puis dire, c'est le fait d'être compté comme juste. C'est le fait d'être agréé par Dieu, acquitté, déclaré en bons termes avec lui. C'est être sauvé. Parce que c'est comme ça que l'apôtre Paul l'explique en citant ce verset de la Genèse, de Genèse chapitre 15. C'est comme ça qu'il explique notre pardon, notre acquittement. Nous qui mettons notre confiance en Christ, Dieu nous donne la justice de Jésus. La vie obéissante, le sacrifice parfait de Jésus, donné, crédité à notre compte, comme si on voyait notre compte bancaire et crédité au début du mois, une somme énorme, la justice de Dieu, la vie obéissante de Jésus. On met notre confiance en lui et on reçoit cette obéissance, crédité à notre compte. La suite de la Genèse va nous montrer que ce Dieu en qui Abraham croit et en qui nous croyons est digne de confiance. Il est fidèle à ses promesses. Abraham aura un fils naturel, biologique, Isaac. Et par Isaac, par cette lignée, en effet, le peuple deviendra nombreux. On le voit au début du livre de l'Exode, en Égypte. Le peuple est devenu nombreux au point d'inquiéter le Pharaon. Et Moïse l'explique aussi au début du livre du Deutéronome. Il dit que le peuple est devenu aussi nombreux que les étoiles. Et donc cette promesse, appuyée de ce signe resplendissant cosmique, a été tenue par Dieu dans le temps, dans l'histoire. Parce que cette partie, cette promesse, concerne la nation d'Israël. C'est la partie nationale de l'Alliance. En effet, Israël est devenu un peuple, nombreux. Ceci dit, au fur et à mesure que la Bible avance, le narratif de la Bible avance, on voit que ce peuple sera un peuple qui, dans un sens, déborde tout ce qui est national. Il deviendra un peuple international. On va voir ça déjà au chapitre 17. Il sera un jour un peuple composé de juifs et de non-juifs, de tous ceux qui croient comme Abraham a cru, qui croient Dieu sur parole, qui mettent la confiance en Jésus. L'Évangile nous montre d'une manière on ne peut plus claire que nos péchés, nos fautes méritent la mort. Et la mort n'est pas juste un passage physique, mais le passage devant Dieu le juge, qui, parce qu'il est bon, doit punir notre dédain de ses paroles, de sa personne. Et c'est la mort éternelle que nous méritons, sans jugement. La Bible l'appelle l'enfer. Et dans sa grande bonté, Dieu, parce qu'il est bienveillant, nous a donné Christ, descendant d'Abraham, celui qui est mort en sacrifice, qui est ressuscité le troisième jour. Et c'est lui le signe par excellence qui crie haut et fort. Il y a une suite. Dieu va nous donner une postérité. Il peut nous donner la vie éternelle. À nous qui sommes spirituellement morts. À nous qui sommes condamnés. Notre nom ne disparaîtra pas de la terre. Pas en Jésus. Et Abraham lui montre la voie à suivre. Fais confiance à Dieu. Croire les promesses époustouflantes de vie, de postérité, de vie éternelle que Dieu nous donne en Jésus. Appuyé par ce signe de la résurrection. Et en effet, Jésus nous dit, Jean chapitre 11, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Croyons-nous cela. Croyons-nous Dieu sur parole. Il nous donnera une suite, le pardon, l'acquittement en Jésus, la vie éternelle, une postérité éternelle, grâce à Jésus. C'est signé et scellé, comme c'était signé et scellé pour Abraham. Passons à la deuxième moitié de ce passage. Tu auras un chez-toi, c'est signé et scellé. Pour les premiers lecteurs de ce passage, n'étaient pas des gens de l'époque d'Abraham, mais plutôt des Israélites dans le désert, pendant l'Exode. C'est Moïse qui a rédigé ce livre de la Genèse. Il a rédigé pour les Israélites que Dieu venait de sauver de l'esclavage en Égypte. Et en lisant ce livre, ou peut-être en l'écoutant plutôt, ils auraient hoché la tête. Ah oui, 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 en effet, Dieu a été fidèle à sa promesse. En effet, on voit, on est devenu un peuple nombreux, ça on le voit. Mais qu'en est-il de la suite? Comme Abraham le savait, et comme c'est toujours le cas, un peuple sans un territoire est dans une situation périlleuse. C'est tristement vrai pour le peuple juif au XXe siècle, au siècle passé. D'autres, comme les Kurdes aujourd'hui, ressentent ce même besoin. Ils ont besoin d'un territoire. Dieu avait promis à Abraham de faire de lui une grande nation. Et de manière naturelle, parce qu'une nation, pour être une nation, a besoin d'un territoire, il lui avait promis le territoire de Canaan. Et ce peuple israélite, dans le désert, bien des années plus tard, après la sortie d'Égypte, ce peuple aux portes de la terre promise, face aux nations qui habitent le pays, ont besoin d'entendre cette promesse. Cette promesse que Dieu a donnée à Abraham pour leur ancêtre Abraham, mais pour eux aussi. Voici la parole de l'Éternel, la promesse. Je suis l'Éternel, verset 7. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en possession. Il réaffirme cette promesse. Il l'a fait sortir justement pour lui donner ce pays. Et Abraham répond avec respect, mais quand même avec un certain questionnement. Verset 8. Seigneur Éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Et comme j'ai dit, Ralph Tavis, dans son commentaire, suggère qu'Abraham recherche l'assurance. Il ne doute pas, mais il veut quand même être rassuré. Il veut avoir la certitude des choses qui lui ont été promises. En quelque sorte, assurance rime avec alliance. Pas littéralement, bien sûr, mais les deux choses vont de pair. Parce qu'au verset 18, on lit... Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays. Dieu va lui donner un signe, il va lui donner un sceau. Il s'agit d'animaux qui sont sacrifiés, comme plus tard, des animaux seront sacrifiés au temple. Et c'est un rituel où ceux qui marchent au milieu de ces animaux coupés s'engagent à être fidèles à leur promesse. En tout cas, un texte dans Jérémie 34 explique une alliance semblable de la même manière. C'est comme si ceux qui s'engagent disent « Si je ne suis pas fidèle à mes promesses, que je sois découpé, comme que je sois tué, un peu comme ces animaux. » Mais cette nuit-là, ce n'est pas Abraham qui s'engage, ce n'est pas Abraham qui marche au milieu de ces animaux. C'est Dieu, et que Dieu, Dieu uniquement qui va marcher au milieu. Il fait nuit, c'est sombre, et le texte parle d'un four fumant et des flammes qui passent entre ces animaux partagés. Et ça, c'est sans doute évocateur de la présence divine. C'est un peu comme lors de l'Exode, quand il y avait ce pilier de feu la nuit qui guide le peuple. C'est la présence de Dieu qui guide le peuple. C'est Dieu qui s'engage. Et il le fait de manière unilatérale. Il s'engage, il va le faire, quoi qu'il se passe. Ça ne dépend pas d'Abraham. Il va le faire. Il va donner ce pays à la descendance d'Abraham. C'est signé, c'est scellé. Abraham peut compter là-dessus. Les Israélites, aux portes de la terre promise, bien des années plus tard, après la sortie d'Égypte, ils peuvent compter là-dessus. C'est signé et scellé. Il annonce à Abraham que ça ne sera pas pour tout de suite. Il annonce d'avance l'esclavage de son peuple. C'est 400 ans passés en Égypte. C'est seulement à la quatrième génération que les descendants vont hériter le pays. Que quand les peuples qui l'habitent l'ont démérité totalement. Et les premiers lecteurs entendent cette promesse signée et scellée, selon laquelle le pays leur a été donné il y a bien 400 ans, et que c'est maintenant le temps de l'accomplissement. Ils peuvent y aller avec foi. Ce pays leur est donné. Il est un cadeau à recevoir par la grâce. La foi pour cette génération aux portes de la terre promise ne rime pas avec la passivité, c'est pas juste une foi passive, il faut y aller. C'est le combat qui les attend. C'est Jéricho qui les attend. Dieu les a multipliés. Ils sont nombreux. Ils voient que Dieu a été fidèle à cette première promesse, première moitié du passage. À eux maintenant de croire la deuxième promesse qui a été signée et scellée par cette alliance. Alors nous, bien des années plus tard, nous on connaît la suite de l'histoire. En effet, Dieu a été fidèle à cette deuxième promesse aussi. Oui, ça a pris du temps. La conquête a pris du temps, des centaines d'années. Mais oui, Dieu a été fidèle à cette promesse. Le pays leur a été donné. Mais quand nous suivons ce thème du pays, dans la Bible le pays que Dieu a donné à son peuple, quand nous réfléchissons à ces choses à la lumière de l'accomplissement en Jésus-Christ, quand on pense à la Nouvelle Alliance, parce qu'en fait, toutes ces alliances de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement dans la Nouvelle Alliance en Jésus, scellée par le sang de Jésus, ce descendant d'Abraham, ce descendant suprême. Nous, on voit que dans la suite de la Bible, ce pays n'est pas un territoire spécifique au Moyen-Orient, si bien plus que ça. Dans l'accomplissement, l'accomplissement est plus grand, beaucoup plus vaste. Et ce pays, c'est toute la terre, une nouvelle création. Ésaïe on le voit dans le chapitre 65, il parle d'une nouvelle création. Il parle d'une nouvelle Jérusalem. Et l'Épître aux Hébreux dit qu'Abraham lui-même attendait cette nouvelle création. Je cite Hébreux 11. C'est par la foi qu'Abraham est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car Abraham, il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et juste quelques versets plus tard, on découvre que cette cité, cette patrie, je cite, une meilleure patrie, c'est-à-dire une patrie céleste. Tout comme Dieu a annoncé à Abraham qu'il n'allait pas jouir personnellement de son vivant, de ce territoire, nous aussi, comme Abraham, nous sommes en chemin. Nous sommes des étrangers qui attendent une patrie meilleure qu'on va sans doute pas voir de notre vivant. Nous l'attendons nous aussi par la foi, passionnément. Et comme Abraham, c'est pas simple de faire ça. Ce n'est pas facile. Marcher par la foi plutôt que par la vue, c'est difficile. Et tous ces récits, les récits qui concernent David et Abraham, nous le montrent. Abraham croit Dieu, mais il a besoin de Dieu pour que Dieu vienne au secours de son manque de foi. Bien des pièges le guettaient, bien des pièges nous guettent, nous aussi. Tout naturellement, nous baissons nos têtes et nous cherchons nos chez-nous ici. Dans notre société occidentale de confort, c'est tellement tentant de faire ça. Certains ici ont fait le choix de venir de loin pour chercher une meilleure vie ici en France. Mais qui que nous soyons, quelque part, nous cherchons tous cette meilleure vie. Et tout naturellement, nous la cherchons dans nos biens matériels, dans la réussite professionnelle, dans nos études, dans nos relations, nos amitiés, nos familles. On ne veut aucunement mépriser ces choses-là parce que ce sont des cadeaux que le Seigneur nous donne. Ils font partie de sa bonne création. Mais on doit relativiser ces choses. Elles ne nous donneront pas la satisfaction après laquelle nos cœurs languissent. On doit réaliser que notre vrai chez-nous n'est pas ici, mais dans une terre qui nous a été promise. Et bien des années plus tard, Jésus nous l'explique de cette manière. Et on l'a vu il y a quelques semaines. C'est Jean 14. Que votre cœur ne se trouble pas. C'est un peu comme avec Abraham. N'aie pas peur. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. C'est l'appel à la foi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voici cette meilleure patrie. C'est pas pour tout de suite. Et le chemin par lequel Jésus nous fait passer n'est pas un chemin facile. On l'a vu il y a quelques mois maintenant, dans la suite de ce passage de Jean 14. La suite n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Ce n'est pas simple de suivre Jésus, de faire ce choix de mourir à nous-mêmes, de marcher par la foi plutôt que par la vue, d'attendre cette meilleure patrie. Pour certains, peut-être même pour nous tous, faire ça implique des choix difficiles, parfois coûteux. On veut faire confiance à Dieu, suivre son Fils au travail, quand c'est difficile, dans nos foyers, dans notre engagement à l'Église, dans notre témoignage, dans l'éducation de nos enfants. Abraham vivait entouré de nations païennes qui faisaient fi de l'Éternel, qui faisaient fi de sa parole. Mais patiemment, courageusement, il faisait confiance à l'Éternel, en attendant l'accomplissement de cette promesse. Nous aussi, nous attendons ce pays meilleur. Et comme pour les Israélites en Égypte, ça a duré quand même 400 ans, ce qui nous attend, ou cette attente, n'est pas forcément facile. On est parfois face à des choix difficiles, et surtout dans la durée, quand l'attente est longue. L'honnêteté au travail peut être dure, coûteuse. Ou la pureté sexuelle dans un monde qui s'en moque est difficile, surtout dans la durée. Pour certains, peut-être parce qu'ils luttent avec l'attraction sexuelle ou même sexe, ou tout simplement parce que dans l'Église, il n'y a pas un croyant avec qui se marier. Rester fidèle en restant célibataire, c'est dur, et surtout dans la durée. Faire confiance à Dieu avec les années qui passent, c'est pas forcément facile. Mais ce passage nous dit, et toute la Bible nous dit, Dieu sera fidèle. Il sera fidèle à ses promesses. Jésus reviendra nous chercher. Il lui prépare une place auprès de son Père. Cette meilleure patrie nous attend. Ses chaussures, cette vie éternelle dans cette nouvelle patrie, cette meilleure patrie, nous attend. Ses chaussures et certaines. C'est signé et scellé. Signé et scellé, bien sûr, de manière ultime, par le sang de Jésus, à la croix. Confirmé, appuyé, le matin de Pâques, par la résurrection. Et comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, dont Abraham, bien sûr, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe, si facilement, et courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Seigneur, nous croyons et viens au secours de notre manque de foi. Je vous invite à la prière. En effet, notre Père, nous croyons. Mais viens au secours de notre manque de foi. Aide-nous à garder nos yeux fixés sur Jésus, le Sauveur qui a scellé cette nouvelle alliance avec son sang. Et merci pour le signe digne de foi que tu nous as donné, le matin de Pâques, la résurrection. Merci pour ce signe, ce sceau qui confirme, qui appuie, qui renforce notre foi. Père, dans les moments difficiles, quand l'attente est longue, quand l'épreuve est longue, et que, Père, tu connais tu sais de quoi nos lendemains seront faits. Père, nous allons te demander de nous aider à garder nos yeux fixés sur Jésus. Et Père, en tant qu'Église, nous allons te demander de nous aider à nous encourager mutuellement, à être là les uns pour les autres dans nos épreuves, pour aider chacun à garder ses yeux fixés sur Jésus. Donne-nous de rester fidèles, de te croire sur parole, à persévérer dans cette confiance. Renforce notre foi, booste notre foi. Nous sommes faibles et nous te demandons ces choses au nom de notre Sauveur Jésus. Amen.
Amen.